Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le jeudi 20 janvier.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Moi, Joseph Robinette Biden Jr., jure solennellement, la suite, vous la connaissez, c'était il y a un an, jour pour jour, la cérémonie d'investiture du 46e président des États-Unis.
Joe Biden qui, 12 mois plus tard, est encore loin d'avoir atteint son objectif premier.
Rassembler un pays plus que jamais divisé, on va y revenir dans nos journaux et les analyses de nos éditorialistes.
À la une de l'actualité en France, Julien.
Ce drame dans le Jura, la mort de 4 lycéens restés prisonniers de leur voiture tombée dans un lac. Soyez vraiment prudents sur la route, s'il vous plaît, attention au verglas et au brouillard.
On fera le point dans un instant avec vos conditions de circulation, avec la météo d'Anissa Haddadi.
Cette question ce matin, combien de temps avez-vous attendu la dernière fois pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo ? Réponse pour 56% des Français, plus de 4 mois. C'est ce que nous apprend cette étude qu'on vous révèle en exclusivité ce matin sur Europe 1 et qui illustre en partie ce mal qu'on appelle la désertification médicale. À l'origine de ce sondage, le Rassemblement des opticiens de France, son vice-président Didier Cohen sera notre invité à 6h10. Au menu également ce matin, cette découverte exceptionnelle au large de la Polynésie française.
Oui, un champ corallien dans un état de préservation remarquable. Il pourrait s'agir de l'un des plus grands récifs vierges du monde, situé à plus de 30 mètres de profondeur. Son observation a eu lieu dans le cadre d'un projet d'exploration des océans mené en partenariat avec l'UNESCO. Et nous serons avec le photographe, plongeur et explorateur Alexis Rosenfeld. Il a ramené avec lui des clichés de cet immense récif situé dans l'océan Pacifique. Il sera avec nous dans ce studio à 5h45.
Clichés absolument magnifiques. Enfin, on terminera avec votre partition, Omblin.
Une chanteuse qui bouillonne de l'intérieur, qui sait ce qu'elle veut, sa voix est d'or, chaude et puissante. L'une des plus grandes artistes de rhythm and blues, Etta James, dont on célèbre le 10e anniversaire de la disparition aujourd'hui. Rendez-vous à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme. On commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Je vous donne le dicton du jour. À la Saint-Sébastien, l'hiver s'en va ou revient. Alors ?
Eh ben, on est pile poil entre les deux.
Il ne sait pas ce qu'il fait l'hiver, en fait. Je parle
l'hiver est normand. Parce qu'en fait, sur les régions du Grand Est, c'est encore un petit peu hivernal, avec même les flocons qui arrivent aujourd'hui. Je vous l'avais promis hier. Et puis à l'ouest, ça va mieux. C'est presque pas printanier, mais en tout cas, c'est mieux qu'hier. Donc, c'est vrai qu'on est sur une France un petit peu partagée. Donc, je vous le disais, ça va mieux pour le Nord-Ouest. Donc, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, on a du soleil avec du vent. Attention, qui souffle sur les côtes de la Manche. Sur le Nord et la région parisienne, il fait beau ce matin, mais le ciel va se couvrir dans l'après-midi avec quelques giboulées. Et puis, de l'Auvergne au Grand Est, sur le Grand Quart Nord-Est, là, c'est très compliqué. On a de la neige à partir de 400 mètres. Soyez prudents, vous le disiez, Julien, avec ce drame qui s'est déroulé hier sur les routes. On a encore des pluies verglaçantes aujourd'hui avec des températures négatives. Dans le sud, alors sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est nuageux, mais des Pyrénées à la Côte d'Azur, là, c'est du grand soleil avec du mistral très fort jusqu'à 90 km/h. Moins 6 à moins 1 dans l'Auvergne et le Grand Est ce matin, 0 à 9 ailleurs.
Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique.
Yannick Jadot règle ses comptes au Parlement européen avec Emmanuel Macron et il n'est pas le seul. Venu présenter les grands enjeux de la présidence française de l'UE, le chef de l'État a essuyé un torrent de critiques de la part des eurodéputés français à 80 jours de la présidentielle. C'est d'ailleurs dans l'hémicycle du Parlement européen qu'Éric Zemmour recrute, on vous le révélait hier soir sur Europe 1, Jérôme Rivière, patron des eurodéputés du Rassemblement National. Il quitte le navire et rejoint le candidat Reconquête. Et puis je vous le disais dans le sommaire, cela fait un an que Joe Biden est à la tête des États-Unis. Et en guise de cadeau, le Sénat américain vient à l'instant d'enterrer sa réforme électorale pour protéger l'accès aux urnes des Afro-Américains.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce jeudi 20 janvier vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Le grand oral d'Emmanuel Macron hier à Strasbourg pour le traditionnel discours de présentation de la présidence française de l'Union européenne et ses grands enjeux. Séquence officiellement consacrée au 27 mais à 80 jours de la présidentielle. Le chef de l'État a clairement livré des messages en vue de sa future campagne, Alexandre Chauveau.
Oui, Emmanuel Macron a d'abord prononcé un discours d'une vingtaine de minutes où il a longuement fait l'éloge de l'état de droit, menacé de plus en plus, dit-il, par des pays autoritaires. Il a ensuite vanté une Europe souveraine et a demandé à inscrire la protection de l'environnement ainsi que la reconnaissance de l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'Union. Autant de thématiques progressistes déjà au cœur de sa campagne il y a 5 ans et que le président souhaite à nouveau imposer dans le débat public à quelques mois de l'élection présidentielle.
Alexandre, ce qui ressort aussi des échanges entre Emmanuel Macron et les eurodéputés, c'est qu'ils ont viré au règlement de compte sur son bilan et la campagne présidentielle.
Oui, l'Élysée s'y était préparé et les attaques n'ont pas manqué. Jordan Bardella, du Rassemblement National.
Vous êtes comporté comme un liquidateur à la tête de l'État français. Pour la France, mais aussi pour l'Europe, il est vital que votre mandat reste unique.
Taclé à son tour par Emmanuel Macron, à l'aise dans l'exercice.
Vous avez quand même, je dois le saluer, très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions signer.
Mais l'échange le plus marquant est sans doute celui avec Yannick Jadot. L'eurodéputé écologiste et candidat à la présidentielle s'en est pris frontalement au chef de l'État.
Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président de la République, le président de l'inaction climatique.
Qui n'en demandait pas tant pour défendre son bilan sur le climat.
La France a été aux avant-postes de cette stratégie. Vous ne pouvez pas le nier parce que vous mentiriez.
Un face-à-face qu'Emmanuel Macron voulait aborder comme président de la République, mais qui signe encore un peu plus son entrée dans la campagne.
Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
On vous le révélait dès hier soir sur Europe 1, le patron des eurodéputés du Rassemblement National, Jérôme Rivière, quitte le navire. Il rejoint Éric Zemmour.
Oui, au début du mois, c'est chez les Républicains que le candidat du parti Reconquête est allé piocher, recrutant Guillaume Pelletier, le numéro 2 du parti. Aujourd'hui, c'est dans le camp de Marine Le Pen qu'il se sert. Victor Chabert, pour Éric Zemmour, qui fait de l'union des droites sa stratégie, le symbole est plutôt fort.
Oui, c'est une information que nous vous avons révélée hier soir en exclusivité. Jérôme Rivière était le chef de file des 23 députés RN au Parlement européen, le chef de la délégation Identité et démocratie. C'était donc un cadre du Rassemblement national. Il était d'ailleurs dans l'organigramme de campagne de Marine Le Pen, mais lui a porté un soutien du bout des doigts. S'il n'est pas très connu du grand public, c'est quelqu'un qui a une longue expérience politique. Avant de rejoindre Marine Le Pen, il était notamment député UMP des Alpes-Maritimes de 2002 à 2007. Il sera nommé porte-parole d'Éric Zemmour et vice-président de son parti Reconquête, exactement comme l'ex-LR Guillaume Pelletier. Ce n'est pas une coïncidence. Depuis qu'il est entré en campagne, Éric Zemmour a pour objectif de réaliser l'union des droites, un pont entre le Rassemblement national et les Républicains. Il compte bien exploiter cette prise de guerre. Ses deux plus proches représentants viendront désormais des deux camps. Jérôme Rivière confirme que d'autres ralliements d'eurodéputés RN pourraient intervenir dans les prochaines semaines.
Merci Victor Chabert, journaliste au service politique d'Europe 1.
Nous sommes le 20 janvier 2022. Il y a 30 ans, jour pour jour, les Français sous le choc apprenaient le drame, la catastrophe du Mont Saint-Odile en Alsace.
Bilan 87 morts, 9 survivants. Après le crash d'un Airbus d'Air Inter reliant Lyon à Strasbourg, aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. Et parmi les 9 rescapés, un petit garçon de 8 ans, Romain Duclose. Il voyageait seul pour rejoindre sa mère. Aujourd'hui âgé de 38 ans, il se souvient de ce jour qui le marquera à jamais. À La Plagne, en Savoie, où il vit aujourd'hui, le reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
C'est en station dans les Alpes que vit aujourd'hui Romain Duclose. À 38 ans, il gère un magasin de ski durant la saison d'hiver. Avec son look de surfeur, son air cool et ses dreadlocks, impossible de deviner le drame qu'il a vécu il y a 30 ans. Pourtant, lui, y pense tous les jours.
C'est toujours un peu compliqué. J'y repense encore très souvent. Oui. Les débris de l'avion, les victimes et l'odeur aussi de l'accident. Le froid et une attente très longue pour les secours.
Durant cette longue attente, deux adultes vont s'occuper du petit garçon, deux hommes qui sont toujours aujourd'hui des amis très chers pour Romain, qui depuis plusieurs années a choisi de vivre sa vie intensément.
Je vis un peu à fond, oui, je bouge beaucoup, je pratique beaucoup de snowboard, de randonnée de montagne. Je voyage beaucoup, changer de continent ou aller dans d'autres pays bien plus loin.
Vous prenez l'avion ?
Je reprends l'avion, oui, effectivement, seulement pour les longs trajets.
Sinon vous évitez ?
Sinon, si je peux éviter, j'évite, oui.
Romain évoque aussi le procès du crash et l'injustice ressentie face à l'absence de condamnation. Aujourd'hui, 30 ans après, Romain pense à toutes les victimes de la catastrophe, mais cette année, il n'ira pas aux commémorations.
Ça fera toujours partie de ma vie, mais effectivement, il y a d'autres choses maintenant et j'ai pas envie de prendre le temps pour ça, malheureusement. Mais je serai de tout cœur avec eux.
La Plagne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
5 heures passées de 6 minutes sur Europe 1. On prend maintenant la direction de Washington. Un autre anniversaire, cette fois-ci politique, anniversaire pour Joe Biden. sa première année en tant que président des États-Unis.
Et son cadeau ce matin, les sénateurs américains viennent d'enterrer sa réforme électorale pour protéger l'accès aux urnes des Afro-Américains. Un an que Joe Biden tient les rênes de la Maison-Blanche. À cette occasion, le 46e président américain a donné une conférence de presse hier pour revenir sur son début de mandat, entamé avec beaucoup de promesses qui peinent à se concrétiser, notamment sur le plan intérieur. Alexis Guilleux, il s'est fait rattraper par la pandémie.
Oui, après des premiers mois sur les chapeaux de roue, les États-Unis ont été frappés durement par les vagues Delta puis Omicron. Mais hier, Joe Biden a tout de même mis en avant les énormes progrès faits par son pays depuis un an en matière de tests notamment. Alors Joe Biden a débuté son mandat avec sa promesse de réunir l'Amérique. Il a réussi à travailler avec les Républicains sur deux réformes, un plan de soutien à l'économie et un autre sur la modernisation des infrastructures. Mais ça, c'était les premiers mois. Depuis, sa présidence est bloquée, fragilisée par les divisions du Parti démocrate. À cela s'ajoute une inflation record de près de 7% en 2021, du jamais vu depuis 40 ans, ce qui a fait plonger la popularité de Joe Biden.
Et Alexis, ça se montre aussi compliqué pour Joe Biden sur le plan international.
Oui, et sa chute dans les enquêtes d'opinion coïncide avec le chaotique retrait d'Afghanistan. Ce départ était souhaité par les Américains, mais les images de Kaboul ont été terribles pour Joe Biden, lui qui s'est présenté comme un expert des dossiers internationaux. Pendant ces 12 premiers mois, le président n'a cessé d'annoncer le retour de l'Amérique avec une tonalité assez dure vis-à-vis de Pékin, présenté comme le concurrent des États-Unis au XXIe siècle. Et puis finalement, depuis quelques semaines, c'est la Russie qui est redevenue la principale préoccupation de la Maison-Blanche avec cette crise ukrainienne. Joe Biden prédit que Vladimir Poutine va tester l'Occident et que la Russie s'expose à de sévères sanctions.
Merci Alexis Guilleux, correspondant Europe 1 aux États-Unis.
On termine ce journal avec la disparition tragique de Gaspard Ulliel.
Oui, l'acteur est décédé hier après-midi à l'âge de 37 ans après un accident de ski, hospitalisé mardi au CHU de Grenoble pour un traumatisme crânien causé par une collision avec un autre skieur au croisement de deux pistes bleues dans la station de La Rosière en Savoie. Depuis cette annonce, les hommages pleuvent pour l'adolescent sauvage dans Les Égarés d'André Téchinet, un homme talentueux et rare, Marie Jiquel.
Gaspard Ulliel n'inondait pas le cinéma français. Son regard bleu métal sélectionnait attentivement les rôles, mais ses performances variées illuminaient l'écran. Comme dans La blouse blanche cintrée du couturier Yves Saint-Laurent, le rôle de sa vie dirigé par Bertrand Bonello.
Tu sais, des fois je ferme les yeux. Je vois des vêtements qui volent, qui flottent.
Le masque angoissant d'Hannibal Lecter dans une production hollywoodienne ou le costume gris de l'écrivain malade dans Juste la fin du monde.
Et malgré la peur, je décidais de retourner les voir.
Le film de Xavier Dolan, Grand Prix à Cannes, pour lequel il reçoit le César du meilleur acteur. Une récompense peut-être rangée à côté de l'autre César de sa carrière, celui du meilleur espoir masculin, reçu à ses 20 ans pour le film de Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles.
Dis-moi Bleuet, t'as bien une fiancée, non ?
Mathilde, j'entends son cœur qui passe comme du morse.
Dans ce parcours prestigieux figure également une collaboration avec Martin Scorsese pour un spot publicitaire Chanel et sa participation à une série du géant Marvel Moon Knight disponible à la fin du mois de mars.
Et Gaspard Ulliel était aussi récemment en tournage pour une série de Xavier Giannoli attendue sur Canal+.
Merci beaucoup Alban Le Prince pour ce journal.
Il est 5h09 sur Europe 1, c'est l'heure des courses. Le pari gagnant avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 710, Hip Hop au Fort. En grande forme à l'image de ses compagnons d'entraînement qui alignent les bons résultats depuis plusieurs jours, lui il réalise un sans faute cet hiver à Vincennes puisqu'il reste sur 3 victoires consécutives, toutes obtenues avec la manière et comme il s'agit d'un trotteur fiable, il faudrait un incident de course pour qu'il ne puisse pas cet après-midi aligner un 4e succès consécutif. Alors notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 10, Hip Hop au Fort.
Le numéro 10, c'est noté. Merci Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Nous, on revient tout de suite avec le pressing.
Les 3 articles à lire ce matin dans la presse. Au menu, les combines pour moins casquer à la pompe. Le dauphin de combat est arrivé. Et attention à ce que vous vous injectez dans les fesses. A tout de suite.
Et Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour, bon matin, 5h11 sur Europe 1. C'est le pressing de ce jeudi 20 janvier et autour de la table avec nous Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Obline, bonjour Julien, bonjour, bonjour à tous.
On commence comme chaque matin avec les unes de vos journaux qui tous affichent ce matin le visage de Gaspard Ulliel décédé hier, on en parlait à l'instant, des suites d'un accident de ski. L'enfant prodige du cinéma français, titre Le Parisien aujourd'hui en France. La fin tragique d'un acteur secret, ajoute Le Figaro. Gaspard dans la nuit, conclut Libération. avec une jolie photo en noir et blanc du jeune comédien. Tout autre sujet à la une de la Croix. Joe Biden enlisé, titre le quotidien qui revient sur le premier anniversaire à la Maison Blanche du 46e président des États-Unis. Un chef d'État fragilisé par sa trop faible majorité au Congrès et qui pour l'heure déçoit une partie de son électorat. C'est l'analyse en une du quotidien La Croix. Voilà pour les unes les plus marquantes. Ombline, quel article ce matin vous a tapé dans l'œil ?
Un article conso bien pratique du Parisien aujourd'hui en France. Il va faire tendre l'oreille à nos amis automobilistes qui nous écoutent peut-être en ce moment même, hein, sur la route. Si vous êtes passé par la pompe récemment, vous avez sans doute enfoncé les ongles dans votre volant en constatant les tarifs de plus en plus élevés des carburants. 1,62€ le litre de gazole, 1,68€ celui du sans-plomb 95. La résistance s'organise entre automobilistes. Ça arrive, hein, on se serre les coudes et on se refile les bons tuyaux sur Internet. Des bons tuyaux pour payer moins à la pompe, dont le quotidien dresse la liste. Ce sont les commandements, finalement, du conducteur économe. D'abord, on évite de faire rugir le moteur. Vous passez à la vitesse supérieure dès que l'aiguille du compte tour se retrouve entre 1500 et 2000 tours par minute. Pas de sur-régime, Julien. D'ailleurs, pas de sous-régime non plus, hein, ça encrasse le moteur. Okay. Et si votre voiture n'est pas encore équipée du stop-and-go, ça c'est très moderne le stop-and-go, le moteur s'arrête quand vous patientez à un feu rouge ou dans les embouteillages, oh, ça c'est l'avenir. Eh bien, vous coupez le contact manuellement si vous estimez que l'arrêt va durer plus d'une minute. Vos pneus maintenant, alors Julien, conducteur averti que vous êtes, oui vous êtes dans mon viseur, vous savez bien qu'une bonne pression des pneus est non seulement essentielle pour votre sécurité sur la route, mais aussi pour moins consommer de carburant. Il y a une petite étiquette en général qui est collée sur le côté de la portière, hein. Elle vous indique le bon niveau de pression.
Ouais.
Voilà.
Pas trop de pression,
pas assez non plus.
Voilà, il oui, faut être voilà, au bon niveau.
Voilà,
on en apprend voilà. Des choses.
On en apprend. C'est très bon conseil de Julien ce matin.
C'est bien vos commentaires.
Voilà.
Et pourquoi pas des surgonflages ? Parce que ça use la gomme. Voilà.
Et ça risque d'éclatement à haute vitesse sur l'autoroute.
Aussi étonnant que cela puisse paraître sur l'autoroute, notamment, préférez la climatisation aux fenêtres ouvertes. Ça, c'est pour une question d'aérodynamisme. Rouler avec votre Maserati, Julien, les fenêtres ouvertes va vider plus vite votre réservoir. Idem pour les galeries sur votre Ferrari, dans le sens de la longueur quand vous ne les
utilisez
pas.
Je crois que c'est interdit légalement de mettre une galerie sur le toit d'une Ferrari.
Ouais, non, Ferrari aussi. Alors on met dans le sens de la largeur les galeries quand on charge par exemple le coffre de toit au début des vacances. Voilà. Enfin, the last but not the least, la fausse bonne idée, ne roulez pas avec un réservoir à moitié plein. Le risque c'est de vous retrouver souvent sur la réserve, de racler le fond de cuve et d'envoyer toutes les impuretés dans le filtre, puis dans le moteur. Bon, les bonnes combinaisons pour consommer moins d'essence dans le Parisien aujourd'hui en France.
Merci beaucoup, Ombline.
Oh,
Martin
plaisir.
Vous écoute.
Vous aimez les dauphins, Ombline, Julien ?
Et oui, beaucoup.
Tout le monde
comme
aime
tout
les
le
dauphins,
monde. Bah, oui.
Exactement.
C'est comme les petits chiots et les petits chatons.
Exactement. Voilà. Bah, juste après les chiots et les chatons, c'est le quatrième animal préféré des Français, hein, le premier non apprivoisé. Mais celui que je vais vous présenter ce matin risque de vous beaucoup moins vous plaire. C'est un dauphin de combat, un dauphin tueur même, qui aurait liquidé un plongeur du Hamas. C'est en tout cas ce que pensent les cadres du mouvement islamiste palestinien. Dans une vidéo, ils accusent Israël d'avoir téléguidé le mammifère pour qu'il tue un de leurs combattants.
Franchement, un dauphin tueur, c'est de la science-fiction. Rassurez-moi.
Non, pas tant que ça. Hein. Des mammifères marins utilisés à des fins guerrières, ça a déjà existé. C'était même une pratique assez courante durant la guerre froide. Aux États-Unis, il existe un programme gouvernemental depuis les années 60, le Mammal Programme, un programme d'entraînement destiné aux dauphins et aux lions de mer pour qu'ils apprennent à détecter les mines ennemies. Plus proche de nous, en 2019, ce sont des pêcheurs norvégiens qui sont tombés au large de leur côte sur un beluga équipé d'un harnais, un pas commun comme tenue. Le mammifère en question s'était manifestement échappé d'une base russe près de Mourmansk, une base connue pour ses expérimentations. L'année précédente, elle avait publié des images d'un phoque dompté et équipé d'une caméra.
Et la théorie du Hamas est donc assez vraisemblable.
Eh bien, il ne serait pas surprenant que Tsahal, l'armée israélienne, utilise des animaux à des fins de surveillance, voire d'espionnage. En revanche, qu'Israël ait recours à des dauphins comme arme antipersonnelle, ça semble beaucoup plus improbable. Ce genre de théorie sur des dauphins équipés de seringues hypodermiques pour tuer des plongeurs ennemis, elle circule depuis longtemps, note le site américain The Drive, sans qu'il n'y ait jamais eu de preuves. Par ailleurs, Israël fait souvent l'objet d'accusations, au mieux fantaisistes, voire carrément antisémites, l'accusant d'utiliser des animaux pour attaquer ses ennemis. Des aigles, des rats et même des cochons. Alors sur Twitter, l'État hébreu a d'ailleurs préféré en rire en publiant une série d'émojis de dauphins pour répondre aux accusations du Hamas. Le Hamas accuse Israël d'avoir tué un plongeur à l'aide d'un dauphin de combat, c'est à lire sur le site de Slate.
Tout fout le cran.
Oui, oui.
Un dauphin tueur.
Un dauphin tueur.
Enfin, ça comment casse vous parlez. Merci beaucoup, Martin. J'ai choisi pour ma part un article de Libération, une enquête qui va vous faire aimer la chirurgie esthétique. Il ne vous aura pas échappé que la grande mode de ces dernières années, c'est d'avoir, mesdames, une silhouette sablier, autrement dit, une grosse poitrine, une taille de guêpe et un fessier voluptueux. C'est la morphologie du moment, popularisée par la reine d'Instagram, l'américaine Kim Kardashian. Kim K, pour ses 280 millions d'abonnés, dont une partie tente désespérément d'atteindre ce nirvana plastique où plus c'est big, plus c'est amazing, génial, fantastique, en bon Frenchie. Pour la poitrine, il n'y a pas de secret. Un bonnet kardashianesque nécessite la plupart du temps de recourir aux implants. Pour la taille de guêpe, là aussi, c'est simple, si l'on en croit les meilleures influenceuses du moment. Vous savez, ces jeunes femmes opposent lascive et à la prose laxative. Pour entrer dans un 34, il faut faire du sport et ne manger que de la laitue. Quant aux fesses XXL ultra galbées, n'allez pas croire que c'est uniquement en multipliant les squats dans vos salles de fitness qu'elles vont défier ainsi la gravité. Non, non, un fessier pareil n'a rien de naturel. Pour s'en approcher, deux options. La première, faire appel au bistouri, c'est l'opération en vogue, le Brazilian Butt Lift, le BBL pour les intimes qui consiste à prélever de la graisse dans les cuisses ou à l'abdomen pour l'injecter dans la zone fessière. C'est l'une des interventions de chirurgie esthétique les plus dangereuses. Une patiente sur 3000 décède tout de même. L'autre option est en apparence bien moins dangereuse. On vous injecte un produit dans les fesses, ce qui va les maintenir gonflées pendant 18 à 24 mois. Ce produit, vanté sur les réseaux sociaux par moult divas numériques, s'appelle le Yacorp. C'est de l'acide hyaluronique. Il en faut 5 à 20 seringues par fesse, selon le résultat souhaité. Et à 200 euros l'injection, la facture gonfle aussi rapidement que votre postérieur. Comptez 2500 euros en moyenne, le prix du raffinement. Le prix aussi, parfois, de sérieuses complications. Cette infection aux fesses, je l'ai achetée avec mon argent, témoigne Yasmine, trentenaire parisienne qui admet d'emblée être accro à la chirurgie esthétique. Les problèmes ont commencé un mois après les injections, des boutons sur le corps, puis la gorge qui se serre, diagnostic, choc anaphylactique, une réaction allergique à l'acide hyaluronique. Son chirurgien la rembourse et la met sous cortisone, mais rien n'y fait. Pardonnez-moi, la douleur persiste, elle devient insupportable quand le médecin lui fait quelques jours plus tard une ponction pour retirer le produit, ponction sans anesthésie, pour éviter une nouvelle réaction allergique. Enfin. Ça ne marche pas, l'infection s'est généralisée et Yasmine se retrouve quelques heures plus tard au bloc opératoire avec une mèche de 15 cm de profondeur dans la fesse droite, un trou qui permet aux infirmières de procéder à des lavages à base de bétadine et d'eau oxygénée, ultime étape avant l'ablation pure et simple de la zone infectée. Autre témoignage, celui de Géraldine, elle aussi s'est fait injecter du Yacorp et elle aussi le regrette amèrement. Le produit a littéralement fait exploser ses fesses. Elle en garde une vilaine cicatrice et un muscle définitivement altéré. La suite, c'est à lire dans Libé.
Bien, alors pas d'injection dans les fesses. Ok, c'est noté pour aujourd'hui. Merci beaucoup Julien, voilà pour le pressing réjouissant et on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour les sports, Martin.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Le journal permanent Alban Le Prince.
436 000 nouveaux cas de Covid hier en France et un nouveau conseil de défense sanitaire aujourd'hui. Objectif, donner de la visibilité aux Français sur le calendrier des restrictions sanitaires. Elles devraient être maintenues pendant encore 2 semaines. L'éducation nationale exaspérée par la valse des protocoles sanitaires, une nouvelle fois en grève aujourd'hui. Des manifestations sont prévues à Strasbourg, Rennes ou encore Paris, où la préfecture de police assure qu'elle ne sera pas empêchée. Drame dans le Jura en fin de journée. 4 lycéens décédés, pris au piège dans une voiture, tombés dans un lac. Alors que la route était verglacée, un cinquième jeune a réussi à s'en extraire et donner l'alerte. Une enquête est ouverte.
Europe 1. Les initiatives en France, ces petites et grandes actions qui font bouger les lignes, c'est chaque matin à 5h20. Et aujourd'hui, Julien, on prend la direction de la Charente-Maritime.
Bonjour Arthur Léopold Léger.
Oui, bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le président fondateur d'Elixir Aircraft, une entreprise située à La Rochelle qui veut ni plus ni moins révolutionner l'aviation légère avec un engin, on pourrait dire, le plus simple et efficace possible.
On est dans la révolution, mais on est surtout dans la très grande évolution, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une rupture, mais par contre, on va au bout de tout ce qui est possible, que ce soit sur les matériaux, sur l'ergonomie, sur la sécurité, sur l'environnement. On prend des solutions qui existent, on les regroupe, et on tire la quintessence de tout ça.
Alors ça donne votre appareil, l'Elixir, c'est son nom, et pour que nos auditeurs le visualisent bien, c'est un petit avion de tourisme, biplace, avec une grande verrière qui doit permettre, j'imagine, d'avoir une visibilité exceptionnelle. Mais là où vous faites la différence, c'est notamment parce que la structure de votre avion est 100% en matériaux composites, c'est ça ?
Alors oui, c'est vrai. En fait, la structure est 100% en matériaux composites. Ça, j'ai envie de vous dire, on n'est pas les premiers. Et là, Cocorico, il y a une société française qui, en 1976, a certifié le premier avion 100% composite. Mais là où nous, on est la dernière pierre à l'édifice, c'est qu'on est capable de faire des structures très complexes de manière très simple. Je vous donne un exemple. Une aile d'un avion, peu importe la matière dans laquelle est faite cette aile dans le monde, c'est entre 1000 et 10 000 pièces qui sont assemblées entre elles. Nous, chez Elixir, l'aile, c'est une pièce.
Ça veut dire que c'est un grand panneau thermoformé ?
Alors, c'est de la fibre composite pré-imprégnée qui est mise dans un moule avec une solution qui est très astucieuse. Et une fois qu'effectivement cette pièce elle est cuite, elle est terminée. On n'a plus de collage, de vissage, de rivetage à faire dessus. Elle a sa forme, elle a sa résistance et elle est prête à être peinte pour être montée sur l'avion.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, un avion Elixir, si on part de l'hélice et qu'on va jusqu'à la dérive, c'est combien de pièces au total ?
Alors, j'ai pas le chiffre exact, hein, mais un peu moins de 700 références, ça doit faire à peu près 1500 pièces. Là où nos petits concurrents, en tout cas les avions qui sont présents sur le marché aujourd'hui, ont de l'ordre de 15 à 20 000 références, et je ne saurais même pas vous dire combien de pièces.
C'est une règle en tout cas qu'on apprend dans toutes les écoles d'ingénieurs. Moins il y a de pièces, moins il y a de problèmes potentiels. C'est donc votre avion, c'est l'assurance d'une plus grande fiabilité d'une certaine manière ?
Eh ben oui, c'est comme vous l'avez dit, hein, la simplicité, c'est la sécurité en aviation. Ben, ça nous permet d'avoir un avion qui est aussi plus léger, puisqu'on gagne aussi beaucoup de masse sur la suppression de tous ces assemblages. Et qui dit plus léger, dit plus petit moteur. Comme à ça, on ajoute une aérodynamique très poussée, ben, on arrive avec un tout petit moteur qui nous permet soit de voler vite, plus vite que tout le monde, soit de consommer très peu. Et là, après, c'est le client qui met le curseur là où il a besoin, là où il le veut, mais notamment pour la formation des pilotes professionnels, ben, ça permet de réduire énormément l'impact sur la planète.
Et si on met le curseur sur la réduction de carburant, est-ce que vous avez quantifié le gain de consommation ?
Oui, alors tout à fait. Alors évidemment, ça dépend de ce à quoi on se compare. Si on se compare à la moyenne de la flotte des avions de formation, en gros de 1 à 4 places dans le monde, on est à peu près à moins 70%. Voilà. Et après, on peut faire des calculs. Puis après, évidemment, ça varie en fonction des avions. Il y a des avions par rapport auxquels on va gagner 30%, d'autres on va gagner 80%, voire 90%. Ça dépend vraiment des modèles sur le marché.
Alors, vous avez créé Elixir Aircraft en 2015. Et l'année qui débute s'annonce décisive pour vous, puisque vous allez bientôt livrer votre tout premier appareil, je crois.
Exactement. Alors maintenant, c'est une question de jours. Je ne vais pas vous donner de date exacte parce que j'ai envie de vous dire, on vend pas la peau de l'ours avant de vous connaissez la fin de l'adage. Mais c'est plus qu'une question de jour, on trépigne. Comme beaucoup d'entreprises en France, on a des grosses difficultés face au Covid, hein, avec des gros impacts sur nos équipes. Mais malgré tout, on voit le bout du tunnel après des années de certification qui ont été difficiles. On y arrive, ça y est.
Vous avez combien de commandes au total à l'heure actuelle ?
Alors, je crois qu'on approche tout juste de la quarantaine puisqu'on est à 39 commandes fermes et on a un petit peu plus de 100 réservations. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont mis une option sur des modèles qu'on n'a pas encore certifiés. Puisqu'évidemment, aujourd'hui, on a une version de base, mais il y a plein d'autres petits modèles qui vont être dérivés de cette version de base.
Qui sont vos clients ? J'imagine des aéroclubs puisque c'est un avion qui se prête bien aux cours de pilotage ?
Ah oui, alors plus largement que l'aéroclub, c'est la formation. Puisque la formation, ça peut être une formation professionnelle, ça peut être une formation associative, typiquement aéroclub. Mais c'est un avion qui est aussi très bon pour les particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y a des gens qui s'achètent des belles voitures, des maisons de vacances, des voiliers, des bateaux à moteur. L'avion de tourisme, c'est aussi quelque chose dans lequel les gens investissent pour se faire plaisir et pour se déplacer. Hein, puisque finalement, il n'y a pas grand-chose de plus économique qu'un Elixir pour traverser la France.
Combien coûte un Elixir ?
Alors un Elixir, ça coûte 235 000 euros hors taxe. Et juste pour information, hein, c'est un avion qui va consommer à peu près 5 à 6 litres aux 100 km.
Ah oui, ce qu'est la consommation d'une voiture urbaine, d'une citadine ?
Exactement, sauf que nous, on va tout droit et on n'a pas besoin des milliards de tonnes de goudron desquels sont faits les routes. Donc on est en plus très économe de cet aspect-là.
Merci beaucoup Arthur Léopold Léger de nous avoir présenté votre entreprise. Elixir Aircraft, c'est son nom et son petit avion révolutionnaire. On vous souhaite beaucoup de succès et on vous dit à bientôt sur Europe 1.
Merci à vous et bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon début de matin. matinée sur Europe 1. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on est le jeudi 20 janvier au programme de la prochaine demi-heure Omblin.
On va partir à la chasse à la bécasse. Une chasse très réglementée pour un gibier d'exception. C'est ce que nous dira Olivier Pouls.
Mais avant cela, nous serons avec un chasseur d'images dans les profondeurs des océans.
Alexis Rosenfeld est photographe, plongeur, explorateur. Il a fait partie de la mission d'exploration qui a permis de découvrir sans doute l'un des plus grands récifs coralliens vierges du monde, à plus de 30 mètres sous la surface de l'océan Pacifique, un champ corallien à perte de vue, dans un état de préservation exceptionnel et qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Alexis Rosenfeld va nous raconter, il sera dans ce studio dans un quart d'heure.
Mais avant la météo, Anissa l'a dit, et la neige est là.
Oui, bah je vous en parlais déjà hier, hein, de ce risque de chute de neige, donc ça se confirme, la neige est bien là, ça se passe entre le Limousin et le Grand Est, en passant par l'Auvergne. Voilà, dans toutes ces régions, vous allez voir quelques flocons, sur le Val-de-Saône également, mais alors attention, hein, ce sont vraiment quelques flocons. On a de la neige à partir de 400 mètres d'altitude, jusqu'à 10 cm au maximum. Les sols vont légèrement blanchir. Ce matin, on a un temps qui est humide, très humide, avec des petites averses en Occitanie. Dès ce matin, alors ça c'est la bonne nouvelle du jour, on a du soleil, le soleil qui revient généreusement sur le nord-ouest, entre la Normandie et les Hauts-de-France. Mais attention, hein, le long des côtes de la Manche, on a du vent qui souffle fort. Sur la région parisienne, là aussi, c'est sec et ensoleillé. Attention quand même aux chaussées glissantes. En particulier en Basse-Normandie et en Île-de-France. C'est là que ça risque d'être le plus compliqué sur les routes. De la Nouvelle-Aquitaine à la Bourgogne, on a un ciel qui va alterner entre nuages et éclaircies. Et puis au bord de la Méditerranée, c'est du grand soleil. Mais attention, on a beaucoup, beaucoup de vent. En Corse, c'est pas terrible ce matin, ça s'arrange cet après-midi. Les températures, moins 4 à Manosque, moins 3 pour Aurillac, moins 1 à Belfort. Il fait quand même un peu plus doux, hein. 0 à Saint-Étienne, 2 degrés à Rennes et Lille, 3 pour Paris, 8 à Ajaccio. Cet après-midi, c'est comme hier, avec 2 à 14 degrés. C'est encore une fois Saint-Étienne qui fera le plus frais.
Ah, Saint-Étienne, les verts. Ouais. Merci beaucoup Anissa Dadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
À la une de ce jeudi, va-t-on manquer d'électricité dans les prochains mois? L'autorité de sûreté nucléaire s'inquiète de l'état des centrales françaises. 5 réacteurs sont à l'arrêt pour l'hiver et ce n'est peut-être pas terminé. La mort de 4 lycéens dans un dramatique accident de la route dans le Jura. La conductrice, tout juste majeure, aurait perdu le contrôle de sa voiture et plongé dans un lac. La plus jeune victime avait 15 ans. Enfin, le rugby, vie ma vie de légionnaire. Les joueurs du 15 de France vont s'entraîner 10 jours avec la Légion étrangère dans le sud de la France. Stage commando destiné à préparer le tournoi à destination.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Jusqu'ici, tout va bien, mais ça risque de ne pas durer. L'autorité de sûreté nucléaire s'inquiète de l'état de nos centrales. 5 réacteurs sont à l'arrêt pour l'hiver. Un problème de corrosion sur les circuits oblige EDF à passer en revue l'ensemble de son parc. Et c'est bien ce qui préoccupe le gendarme du nucléaire. Faute d'une résolution rapide du problème, il faudra prendre des mesures radicales, Maud Descamps.
Oui, EDF doit rendre à l'autorité de sûreté nucléaire d'ici début février son plan de bataille pour expertiser l'ensemble de ses réacteurs. Un travail qui pourrait prendre de longs mois. Selon nos informations, les équipements disponibles pour faire ces analyses sont peu nombreux. L'arrêt de certains réacteurs pourrait donc être encore prolongé. Et si certains actuellement en service présentaient un risque, alors l'ASN n'hésiterait pas à commander leur mise à l'arrêt, quelles que soient les conséquences sur l'approvisionnement en électricité, insiste son président Bernard de Rozuc.
La mission de l'ASN, elle a été créée pour cela, c'est de prendre une décision indépendante des pouvoirs publics et de l'exploitant lorsque des problèmes graves pour la sûreté se posent. Et donc s'il s'avérait, au vu des investigations qui sont en cours, qu'il y a des problèmes graves et imminents pour la sûreté des réacteurs, ce serait de notre responsabilité de le dire et de demander la mise à l'arrêt de ces réacteurs.
L'autorité de sûreté nucléaire alerte donc sur la nécessité de produire plus d'électricité afin d'éviter tout problème d'approvisionnement en cas d'imprévu. Il faut un plan Marshall pour construire de nouveaux réacteurs, estime-t-on, chez le gendarme du nucléaire.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
On ne parle pas encore de lever les restrictions, mais le gouvernement pourrait donner un cap à l'issue du Conseil de défense sanitaire prévu ce matin.
Encore 2 semaines d'efforts avant d'alléger les contraintes. Le chef de l'État pourrait donner un agenda de sortie de crise et fixer une date pour un assouplissement des jauges et du télétravail. Les contaminations restent cependant à un niveau élevé, plus de 430 000 enregistrés hier. Mais la pression sur les hôpitaux semble se stabiliser. La situation est plus compliquée en revanche en Guadeloupe. Le plan blanc vient d'être réactivé.
Après après l'Espagne, la Grande-Bretagne s'apprête à lever la plupart des contraintes.
Le retour à une vie normale est programmé pour jeudi prochain. À cette date, le masque ne sera plus obligatoire. Terminé aussi le télétravail. Plus besoin de passe sanitaire pour aller en boîte de nuit. Le gouvernement britannique prévoit également de mettre fin à l'isolement des cas positifs courant mars prochain. Nouvelle journée de grève dans l'enseignement en France, écoles, collèges et lycées. Les syndicats appellent à une journée de mobilisation pour dénoncer les conséquences de la crise sanitaire. À Paris, la manifestation est finalement autorisée, même si la demande est arrivée hors délai, précise la préfecture.
L'Église de France, une fois de plus dans la tourmente, l'archevêque de Lyon révèle une nouvelle affaire de pédophilie.
Les faits se seraient produits dans les diocèses de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne au cours des années 70-80. Ce sont des victimes ou des proches qui ont témoigné, agression confirmée par la commission sur les abus sexuels dans l'Église catholique. Quant à l'identité de l'agresseur présumé, il s'agirait du père Louis Ribes, décédé en 1994. Il était notamment connu pour ses fresques qui ornaient les murs d'une quinzaine d'églises de la région, notamment celle de Gramont dans la Loire. Le maire de la commune a décidé de les retirer. Patrice Carteron.
Il n'est plus possible de les laisser. Il y a quand même beaucoup de victimes qui se sont dévoilées. Et il y a beaucoup, beaucoup de familles sur notre commune qui sont touchées. Ça fait 40 ans qu'elles sont posées, ces œuvres. Jusqu'à présent, même les victimes, ils l'avaient enfouies profondément dans un coin de leur tête et ils n'y pensaient plus. Aujourd'hui, ça ressurgit, ça. Et pour les victimes qui ont pu servir de modèle pour les peintres, c'est pas possible de les laisser. Il y a trop de souffrance derrière tout ça et c'est difficile pour eux, quoi.
Le maire de Gramont dans la Loire avec Nina Droff.
Dans le Jura, une enquête ouverte après la mort hier de 4 lycéens dans un accident de voiture.
Le verglas pourrait être à l'origine de ce drame. La conductrice tout juste majeure aurait perdu le contrôle de sa voiture qui a basculé dans le fossé et plongé dans un lac en contrebas avant de couler. Bilan, 4 morts, le plus jeune avec 15 ans. Un cinquième passager a réussi à s'extraire et donner l'alerte. Michel Gaillard est l'adjoint au maire de Doucier, commune toute proche des lieux du drame. Il s'est rendu sur place juste après l'accident.
Le branle-bas de combat, quoi. Il y avait déjà les premiers pompiers qui étaient déjà intervenus, qui avaient essayé d'intervenir, donc sans scaphandre, sans rien, qui sont rentrés dans l'eau pour essayer d'ouvrir les portes de la voiture qui était dans le lac. Puis après, il y a les plongeurs qui sont arrivés. Ils ont réussi à sortir les corps, et puis après, ils ont réussi à attacher un câble et puis remonter la voiture avec un treuil. Ils ont essayé de ranimer les corps, ils ont fait des massages. Ils ont vraiment peu de chance parce que la route était verglacée, quoi. Il ne ferait pas tiloir, la route. Il y avait un couloir peut-être de 4 mètres de large, où il n'y avait pas d'arbres. Sur toute la longueur de la route, sur les 1,5 km, c'est le seul couloir qui doit exister où il n'y a pas d'arbres pour retenir la voiture. Quoi. C'est un truc vraiment pas de chance pour eux. Quoi.
Témoignage recueilli par Caroline Baudry, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a réagi à ce drame. Les services de l'État sont pleinement mobilisés. Je veux exprimer ma peine et adresser toutes mes pensées aux familles et aux proches des lycéens. C'est ce qu'il a déclaré sur Twitter.
C'est un phénomène qui fait fureur chez les adolescents. La Puff, cette cigarette électronique d'un nouveau genre et qui n'est pas sans danger.
La mode inquiète leurs parents et les enseignants. Cette e-cigarette jetable et aromatisée a beaucoup de succès auprès des jeunes. Problème, elle contient effectivement une faible dose de nicotine qui peut créer une forme d'addiction. Elle a fait son apparition dans les cours de récré à l'automne dernier et depuis, eh bien, les adolescents l'ont adoptée. Reportage Zoé Pallier.
Ne cherchez pas du côté des élèves de terminale.
Les puffs, c'est un truc de collégien, quoi.
Ce sont plutôt des jeunes de 13-14 ans qui tirent sur ces petites cigarettes électroniques devant les grilles du collège. Une fumée plutôt discrète s'échappe de ces bâtons colorés faciles à glisser dans une poche ou un sac de cours.
Même dans une trousse, ça se met, après on peut fumer en cours. Pour chaque couleur, c'est un goût différent, en fait.
Il y a fraise, ananas.
Un peu de la barbe à papa fumée.
Des goûts acidulés, sucrés, ces puffs paraissent inoffensives, mais elles contiennent entre 1 et 2% de nicotine. C'est suffisant pour devenir accro. Leur vente est donc interdite aux mineurs qui s'en procurent pourtant en quelques clics sur les réseaux sociaux ou chez le buraliste.
C'est plusieurs connaissances qui viennent me dire « Ouais, va tester, ils demandent pas ton âge, tout ça. »
Si on fait plus d'1m40, on passe facilement.
Des ados et pré-ados pourtant plus sensibles à l'addiction.
Je pourrais m'arrêter, mais j'emmène partout ma puff. Dans ma chambre, sortant de chez moi à 10h, à midi, à 15h, on peut avoir notre puff tout le temps, tout le temps, tout le temps.
De quoi créer toute une nouvelle génération de fumeurs à alerte l'association Alliance contre le tabac, car ces collégiens devenus dépendants à la nicotine se tournent ensuite vers les cigarettes traditionnelles.
Reportage Zoé Pallier.
5h passées de 37 minutes sur Europe 1, on en vient au rugby, et à 3 semaines du début du tournoi Destination, le 15 de France s'offre une préparation commando.
Fabien Galthié aime bien surprendre ses joueurs, ils vont être servis puisque le sélectionneur a décidé de les emmener ce week-end à la Légion étrangère. Les joueurs vont s'entraîner au 1er régiment étranger de cavalerie. Le camp est situé entre Marseille et Cassis. Axel May.
Oui, le camp de Carpiagne, sa rusticité, son soleil, ses légionnaires et bientôt ses rugbymen. Fabien Galthié aime innover pour lancer cette campagne 2022. Le sélectionneur a sollicité la Légion étrangère au nom des valeurs communes que partagent le 15 de France et ce corps d'élite. Fraternité, solidarité, combativité, de quoi réjouir le général Alain Lardet, commandant de la Légion.
Si la Légion mettant en avant la mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout, dit le code d'honneur du légionnaire. Et c'est là pareil pour eux. La mission est sacrée, c'est gagner sur le terrain. Et bien sûr, ça ne se passera pas comme prévu. Mais en tout cas, au bout du bout, il y aura la force du collectif qui, même si on est surpris, va dire on serre les rangs, on serre les coudes et on se bat pour le camarade. Et on lui donnera le bon ballon pour qu'il marque l'essai.
Le 15 de France va vivre une dizaine de jours au contact des légionnaires et ne devrait sortir du camp de Carpiagne que pour des entraînements sur le stade de rugby municipal à Aubagne. En cours de séjour, une rencontre avec des blessés de guerre est prévue et les Bleus se verront aussi remettre un képi blanc, symbole du légionnaire.
Voilà, le 15 de France qui ouvrira le tournoi à destination, ce sera le 6 février face à l'Italie au Stade de France.
C'est noté, merci Christophe Lamarre pour ce journal. Les courses, les pronostics du Quintet, Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est à Vincennes que va se courir ce Quintet parmi les 14 partants qui en découdront sur la distance de 2100 mètres. Il est impératif d'accorder un très large crédit à Dragster de Beaumont, le numéro 8, qui vient d'échouer du minimum le 1er février à Vincennes, avec les numéros 6 de la Chenevière et 13 Dazzle Jet, respectivement 3e et 5e ce jour-là, tout près de mon favori Dragster de Beaumont. Derrière ces trois priorités, je vous recommande Domino Dream, le numéro 9, à ne surtout pas condamner sur ses trois dernières disqualifications et qui depuis a très bien retravaillé le matin à l'entraînement, mais aussi Millie Millionnaire, le numéro 14, une jument suédoise qui n'a plus à faire ses preuves sur l'hippodrome de Vincennes. Enfin les numéros 5, Déco de Tilou, 1, Divine Monceau et 3, DiMaggio compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 6, 13, 9, 14, 5, As et 3.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur Europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Le jour où, à 6h20 sur Europe 1, les grands faits historiques racontés à travers nos archives.
C'était il y a 30 ans jour pour jour, le 20 février 1992.
Bonjour Élise Dangean.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Il y a 30 ans, se crachait un A320 d'Air Inter sur le Mont-Saint-Odile en Alsace. Et c'est à 19h20, très précisément, qu'on perd toute trace de cet avion en provenance de Lyon, Élise.
Oui, 5 minutes avant son arrivée prévue à l'aéroport de Strasbourg-Ensheim, le vol 5148 disparaît des écrans radars. À son bord, 90 passagers et 6 membres d'équipage. Aux alentours de 21h, ça ne fait plus aucun doute, un accident s'est produit. Mais les informations restent quasiment nulles, comme le confiait le préfet de l'époque dans le journal de 22h30 d'Europe.
L'appareil n'a toujours pas été localisé. Les recherches continuent avec du personnel en force sur le terrain, des hélicoptères.
Et ces recherches sont très difficiles ?
C'est-à-dire que la nuit, plus le mauvais temps, plus cette zone peu habitée et de forêts escarpées, ça complique la tâche.
Il aura fallu plus de 4 heures pour retrouver la carcasse de l'avion qui s'est écrasée dans une forêt près de la ville de Bar, à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport de Strasbourg. C'est un civil et son chien qui ont permis de retrouver la trace de l'appareil. Les secours parviennent alors à évacuer 9 rescapés. 2 d'entre eux se sont confiés à notre reporter sur place, Edmond Zoukeli.
J'étais au dernier rang. Dernier siège de l'avion, tout au fond. Ça a duré 10 secondes, le crash, pas plus.
Est-ce que l'équipage avait eu le temps de vous prévenir qu'il allait se passer quelque chose ?
Non, non. On était en phase d'atterrissage, ils nous ont dit attachez vos ceintures, on va atterrir. On a entendu du bruit, puis on a vu des étincelles, et puis on a pensé à se dégager. On s'est éloigné pour ne pas que ça explose, quoi, parce que ça brûlait un petit peu partout. On s'est éloigné, puis on est revenu après pour faire du feu, pour se réchauffer, en attendant les secours.
Très vite, l'indignation monte chez les rescapés, les familles de victimes et même les habitants de la région. En cause, la lenteur des secours, plus de 4 heures de recherche.
Et à la lenteur de l'intervention va s'ajouter la lenteur du procès, Élise.
Absolument, ce qui a provoqué un profond sentiment d'abandon chez les familles de victimes. En 2001, leur association ECHO entame une procédure contre l'État français pour durée excessive de la procédure pénale. Elle sera déboutée en 2006, provoquant la colère de son président Alvaro Rendón au micro Europe 1 de Jean Fritsch.
On est absolument écœuré devant cette situation. 14 ans, alors que la France est le pays techniquement le plus merveilleux du monde. La justice française, exemple de l'humanité. 14 ans, c'est normal.
Le vrai procès, celui de l'accident, finit finit par s'ouvrir. On est en 2006 toujours. Il permet la relaxe du contrôleur aérien et des 5 cadres de l'aéronautique poursuivis, mais reconnaît toutefois la responsabilité civile à la fois d'Airbus et d'Air France depuis fusionner avec Air Inter. Écoutez la joie à l'époque de Maître Hervé Témime, leur avocat.
C'est une décision d'une importance capitale. Je la considère juste et légitime après un si long combat. Les hommes sont relaxés, mais les entreprises sont déclarées responsables. C'est plus important que l'inverse.
Une joie de courte durée, en appel puis en cassation, aucune faute ne sera finalement retenue contre les deux entreprises. La dernière expertise conclura finalement à une erreur de pilotage.
Merci beaucoup Élise Dangean, c'était le jour où. Vous restez avec nous. On va partir à la découverte d'un immense récif corallien préservé dans les profondeurs de l'océan Pacifique.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bon réveil à vous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h44 et on vous propose à présent une plongée au cœur de l'océan Pacifique au large de la Polynésie française. Il y a quelques semaines, une mission d'exploration a permis de découvrir l'un des plus grands récifs coralliens vierges du monde, à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, Omblin.
Bonjour Alexis Rosenfeld.
Bonjour Omblin.
Vous êtes photographe, plongeur, explorateur, vous pilotez le programme One Ocean, le grand témoignage sur l'océan en partenariat avec l'UNESCO, un projet d'exploration d'une décennie pour raconter l'océan, ses richesses, mais également les menaces qui pèsent sur lui. Et l'une de vos premières missions a été d'aller observer, photographier cet immense récif au large de Tahiti. À quoi ça ressemble ?
C'est un, pour le visiteur sous-marin que je suis, c'est un indescriptible bonheur de découvrir, de rencontrer ce récif, ce champ de roses, parce que c'est un récif corallien profond, c'est sa particularité, qui ressemble à des roses géantes, qui parsèment le fond de l'océan sur des hectares, et dont on n'en connaît pas les limites.
Vous connaissez bien les récifs coralliens, vous plongez depuis de nombreuses années. En quoi celui-ci était exceptionnel ?
Ce qui est exceptionnel sur ce récif corallien en particulier, c'est d'abord cette densité de roses géantes collées les unes aux autres, qui ont une couverture peut-être de 70% par endroit, donc d'une vie complètement incroyable. Et c'est surtout qu'il est profond, c'est-à-dire que dans l'image, dans l'esprit des gens, le récif corallien, c'est la surface, c'est quelques mètres sous la surface. Et on s'aperçoit aujourd'hui, depuis quelques années, qu'il y a des récifs qu'on appelle mésophotiques, c'est-à-dire des récifs beaucoup plus profonds qui vivent entre l'ombre et la lumière. Et l'étendue de ces récifs coralliens, qui se limitaient jusqu'à 20 mètres à présent, vont maintenant jusqu'à parfois plus de 100 mètres de profondeur. Et ça ouvre tous les mystères de cet écosystème.
Et il est dans un état de préservation exceptionnel.
Alors d'après la scientifique du CNRS Criob, Laetitia Hédouin, avec qui nous avons travaillé sur ce projet, sur cette exploration, oui, c'est un récif dans un état de santé absolument impeccable, et impeccable, en tout cas en très bonne santé, et qui a passé les différentes étapes, ou en tout cas différentes phases de blanchissement et d'agression et de réchauffement de 2017 et 2019. Donc oui, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir, de constater, de photographier et d'avoir cette chance infinie d'observer ça, oui, tout à fait.
Alors vous aimez la plongée profonde, des nouvelles technologies maintenant vous permettent de vous enfoncer de plus en plus sous la surface de l'océan et de rester au-dessus de ce formidable récif corallien gigantesque.
Oui, c'est surtout, c'est grâce à ces systèmes, ces technologies assez nouvelles, qui ont quand même une petite dizaine d'années, qu'on utilise de plus en plus, de recycleurs. C'est des petites usines qu'on a dans le dos qui nous permettent de recycler, de nettoyer nos gaz et de rester beaucoup plus longtemps, beaucoup plus profond, et de gérer ces gaz avec beaucoup moins de risques, avec pas de risque d'ailleurs pour les plongées, mais même si elles sont très engagées, c'est des plongées parfois qui vont au-delà de 100 mètres. Et c'est ce qui permet d'explorer. Et en fait, cette ouverture d'exploration profonde permet de mieux comprendre certains écosystèmes qui étaient jusqu'à présent peu visités.
D'après un rapport du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens publié l'automne dernier, en moins de 10 ans, 14% des coraux ont disparu des océans. Alexis Rosenfeld, c'est une note d'espoir de découvrir des champs coralliens comme ça à perte de vue ?
Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une note d'espoir, non, parce que si ce rapport IPBES dit que 14% des coraux ont disparu, c'est qu'ils ont disparu.
On ne va pas pouvoir les retrouver.
Voilà, c'est un fait. C'est un fait. Et on parle surtout dans ce rapport des coraux de surface, qui sont des coraux qui sont extrêmement importants. C'est les coraux qui servent de barrière contre les houles du large et qui vont protéger la côte de l'érosion. Donc la continuité d'un récif corallien, c'est que c'est un autre écosystème. Et ce qui est important, c'est de, à partir du moment où il s'est découvert, ces constatations, ces mises en lumière d'endroits aussi magiques, c'est d'avoir une conscience absolue d'une nécessité de protection.
Mmh. Et de fait, de découvrir des récifs au fond des mers aussi, ça nous apprend quoi sur l'océan ?
Ça nous apprend que l'océan n'est cartographié qu'à 20%, alors qu'on connaît parfaitement bien la surface de la Lune et de Mars. Et donc, avant de reparler, comme on entend parler en ce moment, d'exploitation, encore d'exploitation minière, d'exploitation pétrolière, voilà, pensons à explorer, à comprendre, à étudier, et on verra dans une vingtaine d'années s'il ne faut pas mieux faire autre chose que d'exploiter.
Oui, justement, ces explorations des fonds sous-marins sont nécessaires pour éveiller les consciences sur l'importance de la bonne santé de nos océans. C'est aussi ce que vous voulez montrer ?
C'est en tout cas montrer la réalité de nos océans. Donc ce projet avec l'UNESCO qui démarre pour une dizaine d'années, hein, c'est dans le cadre de la décennie des sciences océaniques, programme des Nations Unies, qu'on veut porter ces messages qui ne sont pas forcément des messages d'espoir, qui sont des messages de réalité et de compréhension sur cet océan dont on a besoin, un océan résilient, un océan productif, et que l'exploitation ne peut être réelle que si elle est raisonnée, équilibrée et je dirais sincère dans l'esprit des humains.
Vous étiez au large de la Polynésie française entre novembre et décembre. Vous allez y retourner bientôt ?
Oui, nous retournons. En fait, il y a beaucoup de missions qui sont prévues au cours des 10 prochaines années. Là, nous allons retourner, finir le documentaire et explorer ce récif, parce qu'on n'en a vu qu'une petite partie. 3 kilomètres, ce qui est très grand, mais c'est une petite partie. Et l'idée, c'est d'aller dans un endroit assez extraordinaire, à côté du prochain site pour les Jeux Olympiques, Tiopo, et plonger sous Tiopo et faire le tour de cette côte oubliée où se poursuit probablement ce récif géant avons exploré.
Merci beaucoup et on espère voir de prochaines photos très vite. Merci beaucoup Alexis Rosenfeld d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1, d'être venu nous parler de cet immense récif corallien découvert dans un état de préservation exceptionnel au large de Tahiti. Vous étiez notamment accompagné, vous l'avez nommé, Laetitia Edouin, chargée de recherche CNRS au CRIOB, le laboratoire du corail. Je rappelle que vous êtes photographe, plongeur, explorateur et que vous pilotez le programme One Ocean, le grand témoignage sur l'océan en partenariat avec l'UNESCO. Merci, à bientôt.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Allez, on revient à la surface à 5h51 sur Europe 1. L'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Réunion entre Jean Castex et Emmanuel Macron ce matin juste avant le Conseil de défense sanitaire sur l'épidémie de Covid. Le président devrait présenter un calendrier d'allègement des restrictions qui devrait être maintenu pendant encore 2 semaines. Journée de grève et de manifestation aujourd'hui dans l'éducation nationale, exaspérée par la valse des protocoles sanitaires. Des cortèges défileront à Rennes ou encore Strasbourg. À Paris, la préfecture de police n'empêchera pas la manifestation. La grande tristesse d'Emmanuel Macron, réaction à l'annonce de la mort de l'acteur Gaspard Ulliel hier, victime d'un traumatisme crânien à la suite d'un accident de ski mardi dans la station de La Rosière en Savoie.
Il est grand temps à présent de prendre soin de nos papilles.
Avec notre monsieur gastronomie, Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour Olivier.
Alors comme chaque jeudi, Olivier, vous nous faites découvrir ou redécouvrir notre culture gastronomique. Et ce matin, vous nous emmenez à une chasse très particulière, celle de la bécasse.
Et oui, et c'est l'une des chasses les plus passionnantes et les plus nobles qui soient. J'ai eu la chance d'y participer. Sa saison, c'est d'octobre à février, mais en pratique, on ne voit les bécasses qu'au premier froid. Donc c'est plutôt maintenant qu'elles sont là chez nous. Il faut dire que la bécasse est un oiseau migrateur, au long bec caractéristique. C'est un oiseau qui est protégé. Sa chasse est donc extrêmement réglementée. Chaque chasseur a un quota strict de bécasses par saison qu'il peut prélever, 30. c'est vraiment incroyable à voir, je vous le garantis.
Alors comment ça se déroule ?
Eh bien alors le chasseur doit absolument être accompagné d'un chien. C'est lui qui va lever la bécasse, parce que nous, on ne les voit pas, on n'arrive pas à les trouver. Alors ce chien, il a une petite clochette attachée autour du cou, il se balade, il renifle, il court, et puis tac, à un moment, il lève une bécasse, il se met en arrêt, et on n'entend plus la clochette. Et c'est ça qui nous dit que le chien a trouvé la bécasse. Là, il ne reste plus qu'à trouver le chien, il est juste devant la bécasse, il ne bouge pas d'un centimètre, et puis c'est là qu'il faut la lever et la tirer au moment où elle s'envole. C'est très difficile à toucher une bécasse parce qu'elle vole en zigzag. Alors en fait, ce qui est très important de la tirer en l'air, c'est qu'au moment où elle décolle, elle a une petite spécificité, la bécasse, elle se vide.
Ah, et c'est un mets, j'imagine, très très prisé, Olivier.
Ah oui, c'est un gibier extraordinaire, et contrairement à beaucoup de gibiers à plumes, il n'y a pas d'élevage et de lâcher de bécasses, comme le faisan, la perdrix, le canard ou la galinette cendrée. Hein. On avait l'habitude avant de les faire faisander les bécasses, on les attachait par les becs, on les suspendait, et on attendait qu'elles se décrochent toutes seules pour les manger. Ça c'est fini, il faut dire que c'est un petit peu fort, c'est très particulier en goût, on les mange beaucoup plus fraîche maintenant. Alors, elle possède une chair à la fois fine et intense en goût. C'est assez délicat à préparer, mais lorsque c'est fait dans les règles de l'art, je peux vous garantir que c'est magique.
Alors justement, on la prépare comment, cette bécasse ?
Et bien alors, le summum, c'est de la faire rôtir dans une cheminée. On vide la bécasse, tout se mange à l'intérieur puisqu'elle s'est vidée. On fait des petites tartines sur un croûton de pain grillé avec ce qu'on appelle donc les intérieurs. On rajoute un peu de foie gras, une larme de cognac. On place les croûtons en dessous de la bécasse qui cuit. Et au moment où elle cuit, elle va laisser fondre sa graisse qui va venir nourrir cette tartine qu'on mange en accompagnement de l'oiseau.
C'est un petit peu technique, hein. Je ne serais pas capable de l'en faire. Ouais. Le plus simple est peut-être de la déguster au restaurant.
Eh bien non, ce n'est pas possible.
Ah bon ?
Parce que si la bécasse est autorisée à être chassée, c'est évidemment encadré comme je l'ai dit, sa commercialisation est interdite. On ne peut donc pas les vendre à des restaurateurs qui, eux, ne peuvent pas vous les vendre non plus. C'est pour éviter le braconnage. Le chasseur les mange lui-même ou il les offre. Voilà, il n'y a pas de commerce de bécasses. Ah oui. Évidemment, il y a un peu de vente sous le manteau, mais en tout cas, aucun restaurateur ne vous les proposera. Le mieux est encore d'avoir un ami chasseur.
Merci beaucoup, Olivier Pouls, pour tous ces bons conseils.
Europe Matin.
On attend donc.
Omblin Roche et Julien Pierce.
C'est ce qu'il faut comprendre. 5h57 sur Europe 1, dans un instant, la météo, le journal. Et une exclusivité, Julien.
Qu'on vous révèle ce matin sur Europe 1 les résultats d'une étude commandée par la principale organisation des opticiens. Un sondage OpinionWay qui nous apprend que nous sommes 56% à attendre plus de 4 mois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologue. Conséquence en partie de la désertification médicale. Des résultats alarmants pour le Rassemblement des opticiens de France qui propose notamment de prolonger la durée de validité des ordonnances. Histoire de libérer des créneaux chez les ophtalmos, son vice-président Didier Cohen sera en studio avec nous dans une dizaine de minutes pour nous en parler. On écoutera ensuite Omblin, votre partition.
Elle est l'une des grandes héroïnes de l'histoire de la soul dans les années 60. James, son enfance éprouvante, une carrière en dents de scie et des standards intemporels. La partition dans 20 minutes.
La météo, Anissa Haddadi, c'est le retour des éclaircies, mais il y a tout de même du vent et de la neige au programme.
Bon, il y a tous les ingrédients en fait, voilà, de l'hiver, il y en a pour tout le monde. On a un temps très différent en fonction des régions aujourd'hui. Donc la perturbation qui est arrivée hier par le nord-ouest, qui nous a apporté un petit peu de pluie sur la Normandie, eh bien, elle apporte un petit peu de neige aujourd'hui entre l'Auvergne et le nord-est. On a un peu de neige à partir de 400 mètres d'altitude, on attend entre 4 et 10 cm, de l'humidité pour l'Occitanie, avec des averses ce matin et tout au long de la journée. Et puis partout ailleurs, on a un temps sec où les nuages vont se disputer le ciel avec les éclaircies. Alors attention tout de même, ce matin en Basse-Normandie et en région parisienne, on a des routes qui peuvent être glissantes. Dans le sud, le soleil brille mais le vent souffle très fort, jusqu'à 90 km/h. Cet après-midi, quelques flocons à l'est. Les températures sont un petit peu plus douces, moins 3 à Aurillac, moins 2 à Albi, 3 à Paris et 8 pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, vous faites bien. Très bon début de journée à tous. Nous sommes le jeudi 20 janvier. Et il est 6h. Donner de la visibilité aux Français, voilà l'objectif du Conseil de défense sanitaire ce matin. Le gouvernement envisage une levée progressive des restrictions sanitaires alors que la pression baisse à l'hôpital. Le variant Omicron qui a aussi encouragé la téléconsultation avec un nombre record de consultations en janvier. La baguette à 29 centimes, Lidl s'y met aussi. Le discounter s'aligne à regret sur la politique du groupe Leclerc qui a plafonné ses prix la semaine dernière. Et puis, c'est l'un des maîtres de la littérature, Gabriel Garcia Marquez. 8 ans après sa mort, on apprend que le prix Nobel avait un secret. Mystère levé avec Nicolas Carreau à la fin de ce journal.
Europe Matin. Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Encore 2 semaines d'efforts, c'est le cap que devrait fixer le gouvernement en conseil de défense sanitaire ce matin. Donner de la visibilité sur la levée des restrictions sanitaires, voilà l'objectif. L'exécutif confronté à une situation paradoxale, 300 000 contaminations en moyenne, mais à l'hôpital, la pression baisse. La crise sanitaire qui a changé nos habitudes en profondeur a commencé par la téléconsultation, 200 000 rendez-vous par semaine depuis la rentrée sur le site Doctolib. Et c'est un record, Yasmina Katou.
Oui, et ces 30 derniers jours, 750 000 téléconsultations ont été réservées sur Doctolib, une hausse de près de 30% par rapport aux premières semaines de décembre. Cela coïncide au moment où les contaminations quotidiennes ont explosé un peu avant les vacances de Noël. Aujourd'hui, avec en moyenne 300 000 nouveaux malades chaque jour, impossible de recevoir tous les patients en cabinet, explique Jacques Battistoni, il est médecin généraliste et président du syndicat MG France.
Beaucoup de gens avaient la difficulté de se déplacer parce qu'ils étaient eux-mêmes malades. On connaît les problèmes qui ont été posés par les cas contacts, notamment dans les écoles. Et donc, les parents ont interpellé leur médecin traitant pour savoir quelle conduite devait être tenue, les soigner éventuellement, faire des arrêts de travail, etc.
Le médecin ajoute qu'avec la contagiosité d'Omicron, souvent, ce sont des familles entières qui sont contaminées. Une consultation à distance permet donc d'éviter de les faire venir dans les salles d'attente très peu aérées des cabinets.
Yasmina Katou.
3 jours minimum de télétravail chaque semaine. Le gouvernement veut prolonger la règle pour 2 semaines supplémentaires.
Le télétravail qui a probablement vidé les couloirs de votre entreprise. Sans pause café, les distributeurs automatiques, eux, font grise mine. Le secteur qui emploie 55 000 personnes en France a perdu entre 20 et 90% de son chiffre d'affaires selon les périodes. Et Maud Descamps, le télétravail n'est pas le seul responsable.
En effet, même si le télétravail a un impact fort sur la fréquentation de ces distributeurs automatiques, d'autres facteurs ont fortement affaibli le secteur, comme la hausse des prix des matières premières. Le prix des gobelets en carton a par exemple augmenté de 60% ces 6 derniers mois. Le secteur en appelle donc à un coup de pouce de l'exécutif. Philippe Alvrieux est le président de la Fédération nationale de vente et services automatiques.
Nous demandons le retour au chômage partiel que nous avons connu au plus fort de la Covid et avec le zéro reste à charge, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
La fédération redoute de nombreuses cessations de paiement et donc de nombreux licenciements, comme le souligne son directeur général, Johan Schuffard.
En 2 ans, on enregistre 15% de licenciements dans le secteur qui emploie 55 000 personnes en France. On s'attend désormais à des licenciements massifs parce que si on ne trouve pas à être aidé, les chefs d'entreprise n'auront plus le choix. Aujourd'hui, ils ont conservé les emplois. Demain, ils ne le pourront probablement plus.
Pour résister à la crise, certaines entreprises essaient de se diversifier en proposant par exemple des plats cuisinés. Mais cela nécessite d'adapter les distributeurs, ce qui n'est pas toujours possible.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Une baguette à 29 centimes d'euros. Est-ce vraiment le vrai prix des bonnes choses, comme le promet le slogan de l'enseigne Lidl?
Le discounter a décidé d'aligner le prix de son pain sur celui de Leclerc. 29 centimes, un tarif bloqué pendant 4 mois, annoncé la semaine dernière. Une politique d'abord critiquée par Lidl, que le groupe a finalement appliquée au nom de la guerre des prix. Michel Biérot est le directeur exécutif.
On est dans un marché concurrentiel tel qu'on ne peut pas, Lidl, mais même Carrefour, U ou les autres, ne peuvent pas être 6 centimes, 18% plus cher que Leclerc, qui est le numéro 1. Il est le leader. Ça entraîne une spirale déflationniste dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde agricole va mal. Même si légalement, il peut le faire et qu'on peut le faire, mais l'image qu'on envoie au monde agricole, il est désastreux. Quand mes acheteurs ont vu le 0,29, la première réaction est laquelle? Ils appellent les fournisseurs, les 4-5 fournisseurs avec lesquels on travaille sur la baguette, et leur disent aux fournisseurs, mais vous vous rendez compte, Leclerc a baissé de 18%, vous me demandez une hausse de 25%. Donc c'est ça le problème. Donc forcément, il n'y a rien de bien de faire ça, surtout dans ce contexte actuel. Donc je trouve ça pas très pertinent en tout cas.
Michel Biérot, directeur exécutif de Lidl, invité de La France Bouche sur Europe 1.
6h passées de 4 minutes sur Europe 1. Emmanuel Macron a présenté hier ses ambitions pour l'Europe au Parlement de Strasbourg. Depuis le 1er janvier, la France a en effet pris la tête de la présidence française de l'Union européenne.
Une présidence qui démarre avec un anniversaire, les 35 ans du programme d'échange Erasmus. 10 millions d'Européens en ont déjà bénéficié pour apprendre une langue, découvrir une culture et parfois même changer de vie. Illustration avec ses élèves du Nord, Louis Salé.
Fabrice est professeur d'EPS à Dunkerque. Il fait découvrir l'Europe à ses élèves avec des correspondants depuis l'an 2000.
C'était très, très compliqué. Déjà, l'ordinateur n'existait pas, le téléphone portable n'existait pas. Donc, pour se correspondre, ils s'écrivaient des courriers. Aujourd'hui, par les réseaux sociaux, ils se mettent en connexion. On dit, tiens, voilà ton correspondant. Cinq minutes après, ils sont déjà en échange avec lui. C'est d'une richesse sans fin pour nos petits jeunes de Dunkerque.
L'une de ses élèves de première, Lisa, a déjà bien voyagé depuis le collège.
Je suis allée en Italie, en Finlande, en Angleterre. En Espagne, je suis plus autonome et plus mature. C'est un voyage totalement différent. On ne vit pas les mêmes choses que quand on part faire du tourisme.
Erasmus vise aujourd'hui beaucoup plus d'élèves en finançant les programmes d'échange d'un établissement pour plusieurs années et en permettant que ces projets bénéficient à d'autres élèves d'écoles voisines. Laure Caudrello est directrice France d'Erasmus.
Il y a une priorité majeure, c'est aller chercher ces publics qu'on n'a jamais pu faire venir pour des contraintes qui étaient d'information. Mais il y a aussi des contraintes qui étaient des contraintes financière.
Dernière nouveauté, quelques mois en seconde dans un lycée étranger, c'est reconnu académiquement désormais comme si l'élève était resté en France.
Louise Salé, une réponse sévère en cas d'invasion russe en Ukraine. Voilà ce qu'a promis Joe Biden en conférence de presse cette nuit. La situation pourrait échapper à tout contrôle, prévient le président américain qui fête aujourd'hui la première année de son mandat. Un anniversaire avec un cadeau. Le Sénat vient d'enterrer la réforme électorale défendue par Joe Biden, un texte qui devait défendre le droit de vote des Afro-Américains.
C'est un des plus grands noms de la littérature du XXe siècle. L'écrivain colombien et prix Nobel, Gabriel García Márquez, avait un secret.
Une fille cachée, hors mariage, c'est ce que révèle un journaliste colombien 8 ans après la mort de l'auteur. Un mystère bien gardé par ses proches, Nicolas Caro.
Indira a 31 ans aujourd'hui. Elle est productrice de cinéma. Elle est la fille de Susana Cato, une journaliste qui a rencontré l'écrivain pour une interview et avec laquelle il a collaboré ensuite pour écrire des scénarios. Gabriel García Márquez est mort il y a 8 ans. Au même moment, le journaliste colombien Gustavo Tatis entend parler de cette rumeur. Officiellement, Gabo, comme on le surnomme, était marié avec Mercedes Bacha, avec qui il a eu 2 fils, Gonzalo et Rodrigo. Gustavo Tatis enquête, il interroge le biographe du maître, quelques membres de sa famille, ses meilleurs amis, et oui, il existait bien une autre famille hors mariage. Mais par respect pour Mercedes Bacha, le journaliste a attendu sa mort, survenue en août 2020, avant de faire ses révélations. Le prix Nobel de littérature avait prononcé un jour cette phrase énigmatique « Tout écrivain a 3 vies, une publique, une privée et une secrète ». On comprend mieux.
Le récit de Nicolas Caro.
Et c'était le journal de 6h, signé Roman Hockey. Merci Roman.
À 6h07, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange. Football d'abord et un champion de France qui reprend des couleurs.
Oui, les Lillois ont battu Lorient hier soir en match en retard de la 20e journée de Ligue 1. Victoire 3-1. Des Nordistes qui se replacent au classement. Ils sont qu'à 3 points de la 4e place. Et en plus, ils se renforcent. Atem Ben Arfa a signé hier. Malgré 6 mois sans jouer, l'international français pense pouvoir être performant.
Aujourd'hui, j'ai beaucoup envie. Je reste un compétiteur. Il y en a beaucoup aussi qui me disaient ça. Ouais, c'est fini, etc. Mais moi, je savais ce que je voulais faire. Et comme je dis, c'est à la fin qu'on paye les musiciens. Donc, je reste dans ma ligne de conduite. Et jamais, pas une seconde, je me suis dit que c'est fini. Pas une seconde.
Atem Ben Arfa au micro de Sébastien Bouet. Dans les autres matchs de la soirée, Strasbourg a battu Clermont 2-0. Les Alsaciens sont 4e. Et puis, Bruno Hirl a remporté son premier match sur le banc de 3. Victoire 1-0 à Montpellier.
Un mot de la Coupe d'Afrique des Nations, Martin.
Oui, qualification hier de l'Égypte qui a battu le Soudan. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour l'Algérie. Les Fennecs doivent absolument battre la Côte d'Ivoire déjà qualifiée pour espérer voir les 8e de finale.
On passe au handball avec les Bleus qui débutent le tour principal de l'Euro ce soir.
Oui, l'équipe de France affronte les Pays-Bas ce soir à Budapest, l'adversaire a priori le plus faible du groupe. 4 rencontres sont programmées pour les Bleus lors de ce tour principal avec en point d'orgue la revanche de la finale olympique contre le Danemark. Ce sera mercredi prochain. Mais d'ici là, les joueurs de Guillaume Gilles vont prendre les matchs les uns après les autres. Le demi-centre, Quentin Mahé.
Ça va monter crescendo avec une première opposition contre les Hollandais. Mais comme je disais, à ce moment de la compétition, on aimerait continuer à mettre les équipes derrière nous. Chaque match permettra de les éloigner de la qualif pour les demi. Et c'est exactement ce qu'on compte faire.
On file en Australie avec du tennis.
Oui, la suite du premier grand chelem de la saison. Belle victoire cette nuit d'Alizé Cornet face à la numéro 3 mondiale Garbine Muguruza. C'est fini en revanche pour Arthur Rinderknecht, forfait sur le cours ce matin Benoît Paire et surtout un très alléchant Kyrgios Medvedev. Et puis un exploit pour finir, celui des volleyeurs de Tours qui ont éliminé la Dream Team de Modène en Coupe d'Europe. Ils sont en quart de finale.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Vous avez attendu plus de 4 mois pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Eh bien vous êtes loin d'être le seul, c'est le lot de plus de la moitié moitié des Français. C'est ce que nous apprend une étude commandée par le Rassemblement des opticiens de France et qu'on dévoile en exclusivité dans un instant. À tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Très bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h12. Votre invité, Julien, est le vice-président du Rassemblement des opticiens de France.
Organisation qui représente plus de 80% des opticiens. Bonjour Didier Cohen.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous en studio et de nous avoir réservé en exclusivité les résultats d'un sondage que vous avez commandé, étude Opinionway sur l'accès aux soins visuels aujourd'hui en France. Quelles en sont les principales conclusions ?
Eh bien, je suis venu aussi ici pour tirer un peu la sonnette d'alarme sur ce qu'on appelle de manière commune les déserts médicaux et plus spécifiquement les déserts médicaux en ophtalmologie. Mmh. Nous avons dans un premier temps été chercher des chiffres officiels, ceux qui sont publiés par l'adresse. Et qu'a-t-on observé ? Aujourd'hui, 25 millions de Français sont dans ce qu'on appelle des déserts médicaux en ophtalmologie. Si on continue sur ce rythme-là, dans 5 ans, on sera pas loin de 40 millions de Français qui auront du mal à avoir accès au cabinet d'ophtalmologiste.
56% des Français doivent attendre plus de 4 mois pour un rendez-vous chez un ophtalmologiste et un Français sur 3 doit attendre plus de 6 mois. C'est ce que révèle ce sondage.
En effet, on a donc commandé cette étude et les résultats sont assez frappants. Il y a l'aspect délai de rendez-vous. Donc, comme vous l'avez dit, plus de la moitié des Français attendent au moins 4 mois, 30% 6 mois. J'ajoute également que 30% se sont vus refuser au moins une fois un rendez-vous. Quand on demande le degré d'acceptabilité de cette situation, on voit que 60% des Français trouvent leur délai de rendez-vous inacceptable. Et 70%, excusez-moi pour cette profusion de chiffres, 70% pensent que la situation s'est dégradée depuis 5 ans.
Je précise que ce sont des moyennes nationales, parce qu'il y a de grandes disparités régionales. L'Île-de-France, par exemple, est bien mieux lotie que l'Occitanie. Quelles sont les régions aujourd'hui qui sont les plus problématiques ?
Alors, de manière globale, on peut citer le Grand Est et la région Centre, qui sont vraiment des déserts médicaux avec des densités d'ophtalmologie très faibles. La norme est à minima de 8 ophtalmologistes pour 100 000 habitants. On est dans ces régions souvent au niveau de 6 pour 100 000 habitants, ce qui est évidemment très faible.
Ça aggrave les pathologies de tels délais d'attente, d'attendre 6 mois ou plus d'aller voir son ophtalmo ?
Alors, deux réponses possibles. La première, c'est qu'en cas d'urgence extrême, soyons clairs, ces gens-là sont pris en charge. Mais globalement, pour des demandes de rendez-vous hors urgence, on peut penser que la difficulté d'accès à l'ophtalmologiste entraîne inévitablement des prises en charge différées.
Didier Cohen, comment expliquez-vous que les ophtalmologistes affirment tout le contraire ? J'en veux pour preuve cette étude de leur syndicat national, étude qui date d'octobre dernier, et qui dit ceci : le délai médian pour obtenir un rendez-vous pour un contrôle périodique, les mots sont importants, est passé de 66 jours en 2017 à 28 jours en 2021, soit une amélioration qui est considérable. C'est en tout cas ce qui est mis en avant. Qui dit vrai ?
Alors, pour en avoir le cœur net, comme vous l'avez dit, nous avons donc commandé cette étude. Et les résultats sont pour nous extrêmement clairs. Les questions étaient tout à fait claires et directes. Elles ne prêtent pas à interprétation. Le délai est passé de 5 ans, en 5 ans, de 3 mois en moyenne, à 4 mois. Donc les chiffres, en effet, diffèrent. Il faudrait voir l'étude des ophtalmologistes. Notre étude est récente. Elle a été publiée il y a quelques jours. Donc on sera évidemment prêt à discuter avec les ophtalmologistes sur les chiffres.
Alors on a bien compris que le sens de votre combat, ce n'est pas d'opposer des chiffres à d'autres, c'est d'aider éventuellement les ophtalmologistes à avoir plus de temps médical, de les soulager sur certains actes courants.
Voilà, il y a dans un premier temps le constat et le plus important, les solutions. Et je viens ici avec 4 solutions claires, simples, immédiatement opérables, qui vont permettre, nous semble-t-il, de faciliter l'accès à la consultation.
Lesquelles ? On vous écoute.
Alors, premier point, il est possible pour les Français de renouveler leur équipement chez l'opticien dans un délai qui est variable suivant l'âge du porteur, entre 3 et 5 ans, suivant son âge. C'est une mesure qui existe depuis 2007. Elle n'est pas connue. Globalement, peu de Français la connaissent, à peine la moitié. Elle est pourtant, pour ceux qui l'utilisent, reçue de manière extrêmement favorable.
Ça,
nous n'avons pas le droit
solution.
De communiquer là-dessus.
Oui.
Et nous demandons bien évidemment la possibilité de communiquer à l'extérieur des magasins pour faire connaître la mesure.
Il y a la question également des ordonnances. Vous voulez allonger la durée de validité des ordonnances, c'est ça ?
Comme je vous l'ai dit, la durée est bloquée dans le temps. Nous proposons, là aussi, pour faciliter l'accès, de la prolonger, alors selon un délai qui sera à voir avec les pouvoirs publics, mais il est bien évident qu'un délai allongé permettra de recevoir plus de monde dans les magasins, et ainsi, et c'est ce qui est notre but, de décongestionner en fait le système, faciliter l'accès à la consultation.
Parce qu'aujourd'hui, les rendez-vous que prennent les ophtalmologistes, ce sont beaucoup d'actes courants qui pourraient être simplifiés. C'est le constat que vous faites ?
Alors, il y a des actes, bien sûr, qui pourraient être simplifiés. Et c'est l'objet de la troisième et quatrième mesure. Nous proposons également la possibilité de faire de la téléconsultation en accord avec les ophtalmologistes dans les magasins. C'est tout simplement un trait d'union entre un patient et un ophtalmologiste à distance qui permettrait là aussi d'augmenter le nombre de consultations et de faciliter l'accès aux soins. Mmh. Je vous rappelle qu'on est dans des déserts médicaux où très souvent l'ophtalmologiste est loin, c'est compliqué pour les gens d'y aller. Et bien évidemment, la consultation, et on le voit depuis 3 ans, ça marche.
A fortiori pour les personnes âgées qui sont les premiers clients, j'imagine, en tout cas des ophtalmologistes.
Il faut savoir qu'à partir de 42-43 ans, tout le monde doit porter globalement des lunettes. Donc c'est évidemment, en premier lieu, ça concerne les personnes âgées.
Toutes ces propositions, est-ce que vous les avez faites directement aux ophtalmologistes ?
Alors bien évidemment, nous discutons avec
qu'ils vous répondent ?
Les ophtalmologistes. Ils sont ouverts à la discussion, bien évidemment. Cependant, nous sommes contraints par un cadre réglementaire et la discussion est tripartite. Les ophtalmologistes, les opticiens et les pouvoirs publics.
Ça veut dire que votre démarche ce matin, elle est aussi pour sensibiliser à 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle les candidats ?
Alors, c'est une campagne de mobilisation. Je vous rappelle que dans cette campagne, nous avons prévu un site avec une pétition. Il s'agit d'être le plus grand nombre, de porter la mesure. Et à ce moment-là, évidemment, les pouvoirs publics, les candidats, de manière générale, les élus, les représentants doivent s'en emparer et faire évoluer le débat.
Didier Cohen, il ne vous aura pas échappé qu'une proposition de loi contre la désertification médicale, c'est le sens de votre venue ici ce matin, sera examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, texte défendu par Guillaume Garot, député socialiste, qui veut instaurer une obligation de présence en désert médical d'une durée de 3 ans pour les jeunes médecins. Est-ce que cette mesure vous semble judicieuse ?
Alors, le Rassemblement des opticiens de France est un syndicat professionnel qui porte le débat sur la place publique de l'accès aux soins. Aujourd'hui, il n'est pas de notre rôle d'interférer dans ce débat qui intéresse les médecins et le gouvernement. Nous, tout ce qu'on souhaite avec nos solutions, et la quatrième que je n'ai pas encore évoquée, c'est aussi de faire du dépistage qui n'existe pas, qui prend du temps, qui permettrait là aussi d'aller plus loin. Notre souhait, évidemment, c'est que l'accès aux soins soit favorisé et qu'on décongestionne une fois pour toutes l'accès au cabinet.
Votre message est passé. Merci beaucoup, Didier Cohen. Merci de nous avoir présenté en exclusivité ce matin sur Europe 1 les résultats de cette étude OpinionWay pour le Rassemblement des opticiens de France et vos 4 propositions. Donc, très bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Merci.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
6h19 sur Europe 1, les titres, Alban Le Prince.
Jean-Michel Blanquer adresse ses pensées aux familles et proches après ce drame survenu hier dans le Jura. 4 lycéens sont décédés en fin de journée, pris au piège dans une voiture tombée dans un lac. Un 5e jeune a réussi à s'extraire et donner l'alerte. L'éducation nationale en grève et à nouveau dans la rue aujourd'hui pour dénoncer les changements de protocole sanitaire à répétition. Des manifestations sont prévues dans toute la France. Le cortège parisien ne sera pas empêché, prévient la préfecture de police, malgré la déclaration trop tardive. 140 milliards d'euros, c'est la facture totale des dépenses liées à la crise sanitaire pour les années 2020, 2021 et 2022. Chiffre dévoilé par Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, dans Les Échos.
Et comme chaque matin à 6h20, on termine en bine avec votre partition. Elle nous a quittés il y a 10 ans aujourd'hui. Elle, c'est l'une des grandes reines de la musique soul, Etta James.
La reine de la soul du nord des États-Unis, Julien de Chicago. L'impétueuse, l'exigeante, cabossée Etta James avec cette voix de baryton intimidante, ample et chaude.
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather.
James Etta Hawkins devient Etta James au milieu des années 50.
Elle est membre du groupe de filles de Peaches. C'est à Los Angeles qu'elle enregistre son tout premier 45 tours pour Roll With Me Henry. Elle est choisie pour être la chanteuse principale. Les 2 autres membres de The Peaches apparaissent en tant que choristes. Etta James a 17 ans et sa carrière est lancée.
À la fin de l'hiver 1955, un numéro 1 en poche, Etta James intègre la tournée d'un certain Little Richard.
Oui, elle quitte The Peaches, viennent ensuite les studios à la Nouvelle-Orléans, les routes, pendant les tournées, les scènes qui s'enchaînent, les rencontres. Etta James perd l'innocence de l'adolescence, fait connaissance avec la drogue, l'héroïne et celui qui va lui briser le cœur, Harvey Fuca. Mais avant de la quitter, le chanteur a la bonne idée de lui présenter Leonard Chess, le fondateur, avec son frère, du tout nouveau label Chess Records à Chicago. La maison de disques abrite déjà les artistes Muddy Waters et Chuck Berry. Elle deviendra l'une des plus importantes dans l'histoire du blues, de la musique soul et du rock and roll. At last,
my love has come along. Voilà donc Etta James au début des années 60 qui vient de signer chez Chess Records.
Oui, elle met un pied dans l'univers soul, laisse tomber petit à petit son identité doo-wop. La bouillonnante Etta James, 22 ans, enregistre son premier 33 tours, son disque de référence At Last. Le rhythm and blues fait désormais partie intégrante de sa personnalité, une femme afro-américaine qui revendique ses racines blues.
En 1967, ses ballades finissent par faire de moins en moins recettes.
Et pendant ce temps, le label Stax à Memphis est au sommet avec sa soul sudiste, avec son héros Otis Redding. Leonard Chess comprend qu'il y a un virage décisif à prendre. Il envoie Etta James dans ce sud de l'Amérique, à Muscle Shoals en Alabama. Au plus près des origines du rhythm and blues, la Queen of Soul du label de Chicago enregistre Tell Mama. L'album est à la fois une réussite et un chant du cygne. La disparition de son bienfaiteur Leonard Chess 2 ans plus tard va laisser la chanteuse sans contrat et sans avenir chez Chess Records. Mama, comme le nom de l'album d'Etta James paru en 1968. Son dernier grand succès, Etta James, nous a quittés il y a 10 ans, le 20 janvier 2012.
Merci beaucoup, Omblin. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
Europe Matin.
6h26, excellente matinée sur Europe.
On vous donne rendez-vous demain dès 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.